Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous, votre magazine hebdomadaire dédié à l'actualité de Toulouse Métropole. Ce printemps déjà estival, un peu trop même, donne envie de profiter de son temps libre pour se promener à pied ou à vélo. Quand bien même on ne serait pas un utilisateur quotidien du deux-roues, cela étant, le vélo est un moyen de déplacement de plus en plus utilisé au sein de la métropole toulousaine. Et c'est une raison suffisante pour faire le point sur le réseau des pistes cyclables du territoire métropolitain. De nouveaux trajets sont ouverts chaque année, notamment ceux qui relèvent de ce qu'on appelle le REV, le réseau express vélo. Il s'agit d'un dispositif conçu pour faciliter et sécuriser les mobilités des cyclistes, mais aussi celles des autres usagers de la rue ou de la route, piétons en tête, entre autres dans les zones de rencontre entre les uns et les autres. Et en parlant de déplacement dans l'espace urbain, je rappelle qu'un code de la rue a été créé et publié il y a environ un an et demi à Toulouse. C'est donc un point sur les pistes cyclables et le REV et un bilan sur l'instauration du code de la rue qui est consacré l'émission qui va suivre. Et l'élu toulousain et métropolitain le plus à même de faire ce point et ce bilan avec nous, c'est Maxime Boyer, adjoint maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole en charge des mobilités. Bonjour monsieur le vice-président et merci de vous être rendu disponible pour participer à cette émission dans ce studio où je vous ai déjà reçu.
Bonjour et merci de votre invitation.
Alors une question toute simple pour commencer, est-ce qu'on connaît le nombre de kilomètres de pistes cyclables existant au sein de la métropole toulousaine ?
Oui, bien sûr, on est à peu près, à l'échelle de la métropole, à peu près 1000 kilomètres d'aménagements cyclables qui existent. On va dire que deux tiers sont des aménagements tels que des pistes cyclables, des bandes cyclables. Et le tiers restant, c'est plutôt de la voie verte, du cheminement, du sentier, qui est plutôt à vocation de loisir.
Concernant le réseau express vélo, on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission. On va rappeler ce que sont ses objectifs, son tracé actuel et celui qu'il devrait avoir lorsqu'il sera complètement terminé.
Alors, le réseau express vélo, il s'inclut dans une politique de mobilité audacieuse à l'échelle de la métropole de Toulouse. C'est la première fois dans l'histoire de Toulouse que, sous le précédent mandat et sur ce mandat aussi, nous allons autant investir pour le vélo. Peut-être vous dire en titre d'introduction pourquoi investir pour le vélo et considérer que le vélo, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans les mobilités, ce n'est pas une guerre des modes, c'est plutôt une alliance des solutions. À Toulouse, si vous prenez un chiffre qui est un point macro, on a, et c'est un chiffre que j'aime à rappeler régulièrement, 4 millions de déplacements quotidiens sur la grande aire métropolitaine et la moitié de ces déplacements se font en voiture. Et avec la croissance de la démographie, on s'attend d'ici 2030 à avoir 500 000 nouveaux déplacements supplémentaires. On ne peut donc pas imaginer rester les bras croisés en espérant que sur ces 500 000 nouveaux déplacements, on ait peut-être la même parité de déplacements en voiture. On veut éviter la congestion, on veut éviter le trafic automobile partout et permettre la fluidité de la circulation et le vélo fait partie d'une des solutions, comme les transports en commun, comme la marche, pour décongestionner la ville, mais aussi décarboner nos mobilités, parce que c'est aussi une priorité. Alors, en 2019, précisément, s'est créé le réseau Express Vélo, qui est un réseau structurant, un peu en toile d'araignée, qui innerve plusieurs communes de la métropole, plusieurs quartiers de la ville de Toulouse, mais également qui dépasse le périmètre administratif de la métropole pour rejoindre des communes dans le Sicoval, dans le Muretin, dans l'ouest de Toulouse.
La périphérie immédiate
exactement.
De la métropole toulousaine.
Et qui donc est aussi un sujet départemental. C'est 430 km qui est prévu en termes de réalisation et sur la métropole spécifiquement, c'est 290 km qui seront réalisés d'aménagement continu, lisible et on va dire que c'est un peu un RER à vélo à la toulousaine.
On peut préciser peut-être aussi que ce réseau express vélo ne remplace pas le réseau cyclable existant de l'agglomération toulousaine, mais en fait, en quelque sorte, il le complète.
Exactement, il le complète et je dirais même, il le structure. L'objectif de ce réseau express vélo qui a été dessiné en 2019 et qui a été l'objet de multiples réunions de concertation avec des habitants, des collectifs, des associations, c'était de relier à travers des infrastructures vélo des sites économiques, industriels, hospitaliers, universitaires de notre territoire, avec des quartiers, des communes à forte densité de population pour inciter à l'usage du vélo. Et comment on incite à l'usage du vélo? La meilleure des choses, c'est de créer des pistes sécurisées pour pouvoir faire en sorte que les cyclistes puissent se déplacer en toute sécurité autant que possible, de manière continue et de manière assez claire et lisible et intuitive. Et donc c'est le fruit de toute cette concertation et c'est ce qui permettra à terme de relier 800 000 habitants de la métropole à moins d'un kilomètre d'un des axes du réseau express vélo et 500 000 habitants à moins d'un kilomètre du réseau express vélo. Donc c'est un vrai projet d'aménagement territorial.
Donc qui va se faire sur plusieurs années, qui est en cours, mais qui va encore se poursuivre. Elle ressemble à quoi d'ailleurs les lignes du rêve? En fait, elles sont aménagées de façon particulière, bien spécifique.
Oui, alors, vous parliez tout à l'heure du fait que c'était un projet de long cours. Le vélo, au final, c'est le symbole de l'endurance, très relié au Tour de France. Le vélo, c'est un peu notre histoire. Ouais. Et Toulouse, on est dans cette course d'endurance pour les aménagements cyclables. Et donc, ça va prendre un certain nombre d'années. On a bien avancé au cours du précédent mandat, mais il faut continuer. Et ça prend en réalité la forme de 22 lignes du réseau express vélo. 20 lignes seront des radiales qui traverseront des communes et des quartiers de Toulouse et des communes de la métropole et hors métropole. Et deux lignes seront des lignes circulaires, une assez proche du centre-ville et l'une, on va dire, sur les pourtours de la ville de Toulouse. Donc on a deux lignes circulaires, 20 radiales, qui vont innerver l'ensemble du territoire. Et on sera sur des aménagements, grosso modo, il faut imaginer un réseau express vélo, dans l'idéal, je dis bien, sur des aménagements bidirectionnels de 4 mètres, c'est-à-dire 2 mètres pour chaque sens, pour une unidirectionnelle. En général, c'est ça. Et parfois, on a évidemment des aménagements cyclables qui s'insèrent dans des voies de bus où on a d'autres spécificités d'aménagement selon évidemment le paysage urbain et la particularité de la rue, du boulevard, de l'axe qui est concerné par la création de cet aménagement cyclable.
Donc 22 lignes qui ont un nom, hein, c'est Rêve 1, Rêve 2, Rêve 3 jusqu'à Rêve 22. On en est aujourd'hui sur les travaux qui sont en cours et sur ceux qui restent à faire.
Ah ben on a bien avancé sur le mandat précédent, on a un certain nombre de réalisations qui ont été faites et on continue. On est à peu près sur les 290 km, à peu près à presque 50% déjà de réalisés. D'une part, d'un héritage d'avant 2020, d'avant même la création même du réseau express vélo, hein. Rien ne naît du néant. Il existait déjà des aménagements assez qualitatifs avant, un peu plus de 35 km. Et puis ensuite, sous le précédent mandat, on a réalisé à peu près un peu plus de 80 km, sans compter les aménagements dont on lance les travaux ou qui sont en cours aujourd'hui, des travaux qui se finaliseront dans les prochains mois. Ainsi, si vous prenez quelques aménagements en cours à Villeneuve, vous avez, avenue Franck-Casal, des aménagements cyclables qui sont en cours, à Villeneuve-Tolosane, je précise. Sur le bas de Bordeaux-Rouge, vous avez un certain nombre de travaux qui sont en cours. On vient de finir l'anneau Marengo jusqu'à la place de la Roseraie. Bon, bref, un peu partout dans Toulouse, un certain nombre de projets ont été ou sont en cours de réalisation et en général je le sais rapidement parce qu'on nous écrit rapidement aussi et facilement pour nous parler des nuisances liées au chantier, mais c'est un temps un peu compliqué, incompressible pour nous malheureusement, qui est nécessaire à la réalisation d'aménagements de qualité.
Donc aujourd'hui les 22 lignes, tout ont au minimum été lancées.
Non, je ne dirais pas que tout a été lancé en termes de réalisation de travaux, mais en tout cas, tout a été lancé en termes d'études. Parce que ce qui prend le plus de temps dans ces aménagements, souvent, ce sont les études. Pourquoi ? Je vous prends un exemple, quelques exemples assez concrets et de manière opérationnelle. On a un certain nombre de lignes d'infrastructures du réseau express vélo qui doivent vont être confrontées à des franchissements de cours d'eau, de voies ferrées, de rocades. Et donc, dans ce cas, il y a tout un travail, souvent, d'acquisition foncière. Il faut lancer des DUP et donc des enquêtes publiques. Ça prend minimum 4 à 5 ans, en moyenne, en France. Ensuite, quand on travaille avec la SNCF, c'est un travail très laborieux, mais dont on arrive un jour à terme. Et on peut ainsi passer au-dessus d'une voie ferrée. Mais c'est des années de travail d'études. Quand on veut passer sur un cours d'eau, dans ce cas, il faut faire des enquêtes environnementales, police de l'eau, bref, ça aussi, c'est des questions d'années. Donc, sous le précédent mandat, on a lancé toutes les études de tous les réseaux express vélo et l'idée c'est que dès qu'on est prêt, on part sur la réalisation des travaux. Mais comme un certain nombre de projets ne dépendent pas que de la collectivité Toulouse Métropole, on doit travailler avec les partenaires, parfois publics, parfois privés, et faire des acquisitions foncières. Donc c'est des sujets d'ingénierie qui prennent parfois un peu de temps.
Vous avez des chiffres de fréquentation de ces nouvelles pistes appartenant donc au, au réseau express vélo, est-ce que vous avez constaté qu'elles sont, d'emblée, elles ont été tout de suite très utilisées et ça va en augmentant?
Alors, c'est un vrai sujet. Toulouse, au cours des 10 dernières années, la pratique du vélo a doublé à Toulouse. Et en particulier, il y a eu un pic qui a été la période du Covid et la sortie du Covid. Où ça nous a permis, nous, collectivités, dans toute la France, en particulier dans les grandes métropoles, d'expérimenter ce qu'on a appelé les coronapistes, les expériences d'aménagement cyclable. Et donc, on a ainsi connu un boom du nombre de cyclistes. Si je vous prends un exemple, pour l'année 2025, vous avez un totem qui permet de faire des comptages devant la gare Matabiau, devant la maison du vélo gare Matabiau. À la fin de l'année 2025, on a calculé un chiffre de plus d'un million de trajets vélos qui sont passés sur cet axe-là. Donc c'est colossal. C'est-à-dire que les Toulousaines et les Toulousains ont adopté le vélo. Je dois dire que Ville du Midi, le temps le facilite.
C'est pour ça que je parlais de ce printemps qui ressemble déjà à l'été.
Donc voilà, donc on a quand même un certain nombre d'avantages. La topologie aussi de notre territoire. Donc, ça fait qu'en effet, le vélo est particulièrement plébiscité. Si je vous prends un exemple d'un réseau express vélo que nous avons réalisé avenue de l'URSS, avant création, après création, nous avons connu plus 77% d'utilisation de cet axe vélo qui n'existait presque pas à l'époque puisque c'était une bande cyclable et c'est devenu une piste cyclable. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui incitent à l'usage du vélo. Et puis, contrepartie, la réciproque est vraie, c'est que il y a aussi des aménagements que l'on réalise là où il n'existe pas d'aménagement structurant en vélo et pour autant où il existe déjà un certain nombre de passages de cyclistes. Je prends le boulevard des Minimes où on était avant réalisation de l'aménagement cyclable du boulevard des Minimes qui a tant fait parler de lui sur sa période de chantier. On était à presque 6000 passages vélo jour alors qu'on était à 10 000 véhicules jour sur le boulevard des Minimes, donc bien plus de la moitié de cyclistes par rapport au nombre d'automobilistes, et on avait de gros problèmes de conflits d'usage sur le boulevard des Minimes, le long des berges du canal. L'espace de la berge était trop restreint pour 6000 véhicules, 6000 vélos et trottinettes électriques par ailleurs, et les piétons. Et donc ça créait un certain nombre d'accidents en défaveur des piétons, il fallait donc qu'on agisse.
Puisque vous en parlez, certains problèmes qui peuvent se faire jour, bon, depuis que le réseau express vélo et les pistes qui lui appartiennent ont été lancées, quel retour vous avez? Est-ce qu'il y a quand même de meilleures relations entre cyclistes et piétons et même automobilistes, parce que ça concerne tout le monde? Qu'est-ce que vous avez comme retour jusqu'alors?
Alors, la croissance du nombre de cyclistes à l'échelle de la ville, c'est très positif, mais ça va de pair avec un autre phénomène, c'est l'augmentation des conflits d'usage. On a une règle politique qui a été voulue par Jean-Luc Moudenc, c'est dans nos politiques de mobilité toujours privilégier avant tout le piéton. Donc il faut préserver le piéton et ensuite le cycliste. Et ensuite, vous avez en fait, on va dire, un ordre qui existe, un peu administratif, qui s'appelle PICTA, et qui donne l'ordre de priorité des déplacements en termes de vulnérabilité et donc de sécurisation de leurs déplacements. Mais on a en effet constaté un certain nombre de conflits d'usage entre piétons et cyclistes, et régulièrement on est sollicité sur ce point-là, sur certains axes en particulier. On a été régulièrement sollicité sur un certain nombre de conflits d'usage entre automobilistes et cyclistes, et on sait qu'en cas d'accident, celui qui va être le plus victime d'un dommage matériel, inévitablement c'est le cycliste. Donc il faut, en réalité, la logique pour nous, la philosophie, c'est que chacun ait sa voie appropriée. Il est plus agréable pour un automobiliste de circuler en voiture en évitant les slaloms de cyclistes. Il est plus agréable pour un cycliste de circuler dans sa voie dédiée pour éviter de se mettre en danger par rapport à un cycliste ou un deux-roues motorisé. Il est plus agréable pour un piéton de circuler sur sa voie et d'être dissocié des trottinettes électriques ou du flux de trottinettes électriques ou de vélos. Donc si chacun a sa voie, ça permet de sécuriser tout le monde et ça permet ainsi un apaisement
aussi des relations,
nos relations, et d'où l'idée du code de la rue, d'où l'idée des verbalisations que nous avons déployées au cours notamment de l'année 2025, de toutes les campagnes de communication, les campagnes éducatives que nous menons dans les écoles, avec les associations pour apprendre à savoir à rouler à vélo. Bon bref, une multiplicité d'actions et de travail, je dirais, de partenariat avec des associations comme l'Association de sécurité routière, association nationale, qui a un caractère d'utilité publique et avec qui nous menons un certain nombre d'opérations de médiation aussi dans la rue, au-delà de la verbalisation et de la communication.
Vous l'avez évoqué, et je l'avais évoqué aussi dans mon introduction, parmi les actions lancées pour améliorer les relations entre les usagers de la rue, cyclistes et piétons entre autres, mais aussi automobilistes, il y a donc eu l'instauration de ce code de la rue à Toulouse. Ça ne concerne que Toulouse, en tout cas pour l'instant. Alors, il y a quoi, un an et demi à peu près qu'il est
oui,
lancé
c'est ça.
Un an et demi. Quel retour vous avez eu le concernant? Quel bilan on peut faire aujourd'hui? D'abord, est-ce que les gens ont connaissance de ce code de la rue?
Alors,
qu'ils l'ont intégré?
Le code de la rue, c'est un principe qui est assez simple. C'est que quand on se déplace sur la chaussée, à travers n'importe quel mode de déplacement, on est obligé de suivre les règles du code de la route. Quand on est en moto, quand on est en voiture, on est obligé de passer le code de la route. Quand on est en vélo, quand on est en trottinette électrique et qu'on doit rouler sur la chaussée, on n'est pas du tout obligé de passer le code de la route. Et donc, on n'a pas nécessairement connaissance des règles ou de la compréhension de la règle. Et donc, il était de notre responsabilité de communiquer toutes les règles existantes, d'une part, les rappeler, parce que pour nous, c'est plus facile de verbaliser quand la règle est connue et non respectée que si elle n'est pas connue, et on sait qu'il peut y avoir des absences d'informations en la matière. Et puis également, rappeler aussi les règles, je dirais plutôt les préconisations, les recommandations de sécurité routière, qui ne sont pas des règles, mais qui sont de bonne aloi si, évidemment, on les met en œuvre. L'idée, c'est de sécuriser nos déplacements, en particulier celles des piétons, des petits Toulousains, des plus vulnérables, des cyclistes, et donc on a créé un document qu'on a diffusé dans toutes les boîtes aux lettres de Toulouse. On a eu un certain nombre de campagnes de communication, dernièrement avec des joueurs du Stade toulousain qui ont porté notre parole à travers les réseaux sociaux et la parole et les quelques idées de prévention de sécurité routière que nous pouvions retrouver dans le code de la rue. Nous avons mené des opérations de médiation dans la rue avec des associations, avec des services civiques pour avoir des médiateurs de rue. Nous avons aussi mené une campagne de verbalisation, plus d'un millier de verbalisations. Tu étais dressé au cours de l'année 2025, mais il faut qu'on continue. On a réalisé un sondage aux alentours du mois de mai 2025 avec la société de sondage IFOP pour un peu avoir les retours de ce que vous disiez. Et un point intéressant, c'est que à peu près 32% des gens ne savent pas les règles qui s'imposent dans une zone de rencontre. Donc ça veut dire que le travail de pédagogie, de communication pour nous doit perdurer, doit se démultiplier, doit continuer. On sait que c'est un travail de long terme. Je rappelle, la zone de rencontre, qui est assez présente en centre-ville de
Toulouse.
Vous
m'expliquez ce que c'est la zone de rencontre et qui elle concerne.
Elle concerne déjà toutes celles et ceux qui se déplacent.
Tous les moyens de déplacement.
Exactement. On la retrouve particulièrement dans les cœurs de quartier ou dans l'hypercentre de Toulouse. Ce n'est pas une aire piétonne, mais ça signifie que le véhicule qui roule en zone de rencontre roule à 20 km/h. Par voie de conséquence, le vélo, si on est à moins de 30 km, peut rouler à contresens de circulation. Il a le droit de rouler à contresens en France quand on est à moins de 30 km/h, il faut le savoir.
C'est partout, ça.
Ouais, c'est partout. Ce n'est pas qu'un sujet toulousain,
oui,
hein, c'est
un
sujet national.
Il faut le préciser.
Il faut préciser
que dans les zones où la vitesse est à 30 ou a fortiori à 20 km/h, le piéton a toujours priorité. Il n'a pas besoin
exactement.
De passer sur un passage piéton.
Et la particularité de la zone de rencontre, c'est que le piéton est prioritaire. Il peut marcher en plein milieu de la chaussée. L'automobiliste, le cycliste ou le...
doit s'adapter à son pas.
Exactement, doit s'adapter à son pas. C'est la règle dans l'idéal. Dans la pratique, on sait que c'est un peu différent. Donc il faut pour nous, en tout cas, qu'on communique mieux sur ces règles qui sont des règles nationales et qui s'appliquent dans toutes les communes de France et en particulier à Toulouse.
Ah, vous parliez de sondage, mais est-ce que vous avez pu mesurer le degré de connaissance du code de la rue et de son application par les usagers?
Oui, on a mesuré, on a eu un tiers de retour clair sur l'existence du code de la rue.
Déjà sur l'existence.
Sur l'existence.
Ça ne veut pas dire la connaissance.
Voilà. Alors si, il nous était précisé dans ce sondage que 97% des gens interrogés connaissaient bien les règles du code de la route et donc du code de la rue. Sauf que quand on reposait une autre question, connaissez-vous donc les règles qui s'appliquent à la zone de rencontre, là on est arrivé à 32%, donc il y a encore un peu de travail à réaliser.
Mais est-ce que vous avez constaté aussi, parce que c'est quand même le but, une baisse des incidents entre usagers, ou tout du moins, et peut-être que c'est votre meilleur indicateur, une baisse des messages reçus à la mairie faisant état d'incidents entre usagers ou d'altercations aussi, hein?
Non, alors c'est compliqué d'objectiver et de quantifier les éléments pour une raison simple, c'est que vous avez un certain nombre d'accidents ou de conflits qui aboutissent à des dommages et dont... quand vous êtes la victime, l'obligation, notamment pour des raisons d'assurance, mais il existe une recommandation où vous devez aller porter plainte pour pouvoir notamment vous assurer, faire fonctionner les assurances. Quand vous avez un accident entre un piéton et un cycliste, rarement il y a un dépôt de plainte ou une main courante. quelquefois, on sollicite la mairie, mais ce n'est pas systématique. Donc, pour les accidents graves, on a les données. Notamment, souvent, c'est des accidents qui impliquent vélo et automobiliste, ou moto, scooter et automobile ou vélo. Là, on a des éléments objectifs et quantifiés clairs. Quand on a des accidents ou des conflits d'usage entre piétons et cycles, entre trottinettes électriques, piétons ou cycles, on n'a pas d'éléments suffisamment quantifiables, pas suffisamment de retours. Et donc, on présume un effet. De toute manière, élu au conseil municipal de Toulouse, on est aussi des citoyens. On vit notre ville et on est dans la concertation en lien avec des associations de sécurité routière, de 60 millions de piétons et autres. On voit ce qui se passe et on sait quand même qu'il y a une anxiété et une dangerosité à certains endroits qu'il faut pouvoir rectifier. Et il faut travailler encore sur plus de sécurité routière et donc plus d'aménagement aussi sécur pour chacun avec des voies dédiées.
Vous avez évoqué la médiation qu'il y avait eu et la communication autour du code de la rue lorsqu'il avait été lancé. Et vous aviez entre autres désigné ce qu'on appelle des ambassadeurs du code de la rue. Alors eux, ils sont en contact direct des citoyens qui leur font leurs propres commentaires, remarques, critiques éventuellement. Qu'est-ce qui vous ont remonté les ambassadeurs de la rue ?
Ah, ça a été des moments. Alors, d'une part, il faut remercier ces ambassadeurs qui sont des jeunes de service civique, qui étaient en lien avec Unicité, qui est une association nationale qui travaille pour engager les jeunes dans ces parcours de service civique. Et on a travaillé avec eux dans la formation et aussi dans la pratique de la médiation dans différents quartiers de Toulouse, pas uniquement dans le centre-ville. Et les retours, c'est que parfois, il y avait beaucoup de virulence de la part d'un certain nombre d'usagers qui étaient en tort. Et donc,
qui ne voulaient pas reconnaître leur tort.
Pas nécessairement reconnaître leur tort, parfois par méconnaissance ou parfois par
mauvaise foi,
et il faut quand même le signaler. Et puis après, une méconnaissance de la règle. Quand on posait la question de qu'est-ce qu'un panneau M12, vous savez, j'ai souvent la critique de ces cyclistes qui grillent les feux. Et c'est vrai qu'un certain nombre de cyclistes grillent les feux rouges, ce qui agace un certain nombre d'automobilistes, y compris les automobilistes de ma propre famille, qui me disent « Maxime, tu nous agaces avec ces vélos ». Sauf que le code de la route prévoit qu'il peut y avoir des panneaux M12. C'est des petits panneaux que vous avez triangulaires sur les feux. Et qui précise les directions que vous pouvez prendre en cas de feu rouge si vous êtes cycliste, et donc qui vous autorise à griller le feu, entre guillemets, si évidemment il n'y a pas de véhicule qui arrive.
En fait, dans ce cas-là, le feu, je pense que c'est bien de les expliquer parce que les gens vont bien comprendre, c'est comme si c'était un céder le passage.
Voilà,
ce n'est plus un stop,
exactement.
C'est comme si c'était un céder le passage. Voilà. Ça veut dire que le cycliste peut passer moyennant le fait qu'il est bien regardé à gauche, à droite.
Qui personne, voilà. En particulier, il faut céder le passage aux piétons, évidemment. Donc tous les piétons doivent être passés. S'il n'y a aucun piéton qui ne souhaite passer, aucun véhicule qui passe, vous pouvez évidemment vous orienter en fonction du petit panneau M12. Voilà, ce n'est pas une création toulousaine, c'est une création nationale qui s'applique aux agglomérations françaises.
Alors c'est vrai, quand on voit ces petits panneaux au début qu'on ne les connaît pas, on dit, mais on a l'impression que c'est une espèce de gadget qu'une personne a mis là sans y être autorisée.
Et ce qui signifie par ailleurs, et c'est l'utilité aussi du code de la route, et du code de la rue en particulier, c'est que s'il n'existe pas ce panneau M12 sur le feu, le cycliste n'a pas à traverser. Et ça, un certain nombre de cyclistes pour autant traversent. Et donc c'est là où nous, au cours de l'année 2025, nous avons verbalisé un certain nombre de cyclistes qui ne respectaient pas cette règle.
Je me demandais quelles étaient les principales critiques qui pouvaient vous être remontées, notamment à travers ce réseau d'ambassadeurs de la rue, concernant le code de la rue. Même au-delà de ça, la façon dont aujourd'hui ça fonctionne entre cyclistes, automobilistes et piétons pour circuler, c'est quoi les principales critiques ? Et c'est souvent les automobilistes qui disent « vous en donnez trop, comme les membres de votre famille, aux cyclistes » ou des piétons qui ont l'impression aujourd'hui de « je suis sur un trottoir et je ne suis pas en sécurité, c'est scandaleux ». Sur un trottoir, un piéton devrait être en sécurité. Et d'ailleurs, un vélo, normalement, n'a rien à faire sur un trottoir.
On a ces deux sujets, c'est l'automobiliste qui se plaint du cycliste et le cycliste qui se plaint un peu de l'automobiliste aussi, pour des raisons légitimes de sécurité routière, parce que s'il y a, comme je l'ai dit, accident, il peut y avoir
des causes bien sûr, lui, il sait
dramatiques,
qu'il est en danger,
exactement. Hein. Et puis ensuite, entre le cycliste, l'usager de la trottinette électrique, souvent l'usager de la trottinette électrique par ailleurs, et le piéton. Et il arrive parfois que le cycliste puisse rouler sur un trottoir à condition que ça soit une voie verte. Ça signifie qu'il y a eu un arrêté municipal qui prévoit la création d'une voie verte. En général, le trottoir est très large, mais ça signifie que la voie verte, le piéton, est pour autant prioritaire. Et le cycliste doit rouler au pas. Mais ça, c'est à peu près 56 km de voie verte à l'échelle de la ville sur les centaines de kilomètres de
l'autre. En parlant de ces rues qui sont limitées à 20 km/h, parfois je vois que les premiers manifestement à ne pas rouler à 20 km/h sont les cyclistes.
Oui, absolument. Et les usagers de trottinettes électriques, et c'est pour ça qu'au cours du mandat précédent, lors d'un conseil municipal, Jean-Luc Moudenc a souhaité qu'on vote un vœu pour demander à ce qu'on immatricule les cyclistes en France, parce que pour nous, il est compliqué de verbaliser des cyclistes, des usagers de scooters électriques, excusez-moi, je parlais des trottinettes électriques. L'idée, c'était d'immatriculer les trottinettes électriques pour pouvoir les verbaliser, parce que quand elles sont débridées, ça va très vite, c'est très dangereux, y compris pour l'usager de la trottinette électrique. On a voté un vœu qu'on a envoyé au gouvernement. Bon, il n'y a pas eu trop d'effet à ce stade, mais en tout cas, l'immatriculation serait aussi de bonne aloi, notamment pour mieux réguler l'usage de la trottinette électrique dans nos villes.
Pour terminer, et malgré tout ce qu'on a pu dire jusqu'alors, est-ce que vous avez le sentiment tout de même qu'il y a une forme d'apaisement aujourd'hui des relations entre usagers de la rue à Toulouse et dans la métropole en général, notamment entre piétons et cyclistes qui, comme on le sait et comme vous venez de le rappeler, sont tendus depuis des années?
Oui, quand chacun a sa voix dédiée.
Oui, bah oui, parce que là,
c'est-à-dire quand le
et qu'on respecte aussi les voies en question, parce que parfois on trouve des trottinettes qui n'ont rien à faire sur une piste cyclable.
Et c'est pour ça qu'on investit pour des voies dédiées pour chacun dans un réseau express vélo. C'est vraiment pour que chacun ait sa voix. Après, quand on est sur des aires piétonnes, dans des zones de partage de l'espace, ça devient compliqué, donc il faut que chacun se respecte, fasse attention les uns aux autres, et souvent dans des soucis de rapport, de relations humaines aussi avant tout, hein, au-delà des relations citoyennes, hein, c'est une question de vivre ensemble, et
le respect
on veut, notre code de la rue, c'est un peu notre contrat social des mobilités urbaines, c'est un peu cet état d'esprit.
Eh bien, c'est une belle expression et une belle conclusion pour cette émission. Merci beaucoup, Maxime Boyer, d'avoir fait pour nous ce point sur les pistes cyclables et le réseau express vélo de Toulouse Métropole. Merci aussi pour le bilan de l'instauration du code de la rue à Toulouse. Je rappelle que ce code de la rue et son livret pédagogique sont consultables et téléchargeables sur le site www.métropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri à la technique Coraline Camebrac. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.